Alors pour le message de ce matin, nous allons aborder le thème « Mourir à soi-même ». Et pour commencer ce temps de la parole du Seigneur, je vous invite sans plus attendre à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Pierre, 1 Pierre au chapitre 3. 1 Pierre au chapitre 3. Et je lirai à partir du verset 18. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Christ a souffert une fois pour toutes, pour les péchés. Nous n'attendons plus de Messie différent. Nous savons que le Seigneur est venu, que son sacrifice aujourd'hui est pleinement suffisant pour couvrir tous les péchés du monde. Il n'y a pas un péché dans ce monde qui soit trop grand pour que le sang de Jésus-Christ puisse le couvrir. Et c'est une bonne nouvelle, car cela veut dire que si nous venons à lui avec repentance et foi, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos fautes. Amen. Il n'y a pas de péché trop grand devant Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on n'a pas à se sentir sous l'accusation si nous sommes venus devant le Seigneur avec une attitude de repentance, si nous avons péché. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous donner une vie de victoire, parce que c'est aussi bien cela que nous allons voir ce matin. Comment avoir une vie de victoire sur le péché? Jésus, donc, a dû mourir quant à sa chair, c'est-à-dire il a dû mourir dans son corps humain, mais il a été rendu vivant par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour prêcher la repentance. Ce n'est pas seulement durant le temps de son ministère sur cette terre, alors qu'il était dans un corps d'homme, qu'il est venu prêcher la repentance. Pourquoi nous voyons qu'il a également prêché la repentance au temps de Noé? Si je lis le verset 18, la deuxième partie du verset 18, « Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. » Jésus est mort dans son corps d'homme, mais il était rendu vivant par l'Esprit de Dieu, et cet Esprit-là, le Saint-Esprit, autrefois, déjà, était à l'œuvre sur cette terre, au travers de Noé, au travers de cet homme, comme nous est décrit 2 Pierre 2, verset 5, je ne vais pas vous lire, hein, mais c'est la référence biblique, où cet homme nous est décrit, donc Noé, comme un prédicateur de la justice. L'Esprit de Dieu était sur Noé, et parce que l'Esprit de Dieu était sur Noé, alors Noé prêchait la repentance parce qu'il savait que le jugement allait arriver. Noé savait, Il construisait pas une arche dans son jardin pour faire une jolie petite décoration. Hein, vous savez, en Suisse, on aime bien les jolis petits jardins devant les villas et tout. Il y a des choses extraordinaires. Des fois, on peut même s'arrêter dans un village ou dans un quartier villa et se promener et admirer tout ce qui se fait de magnifique dans un jardin. Hein, les petits nains, les arrangements avec les fleurs, les buis et compagnie. Il y a des gens qui ont du génie et qui ont un talent extraordinaire pour leur jardin. Il y a beaucoup d'amour. Des fois qu'on voit autour des maisons des décorations florales, etc., etc. Mais Noé, s'il construisait une arche, peut-être qu'il l'a construit dans son jardin ou ailleurs, hein, j'en sais rien exactement par rapport, mais peut-être certainement sur une de ses terres, c'était pas pour faire joli, pour avoir quelque chose d'attrayant et puis que les gens se disent « Ah, ben on va aller trouver Noé parce qu'il a vraiment construit un bateau qui est merveilleux. Hein? » Noé, il savait qu'en construisant cela, il savait qu'en obéissant au Seigneur, le jugement de Dieu allait venir. Et l'Esprit de Dieu était sur Noé, et Noé prêchait la repentance, prêchait que le jugement allait s'approcher de la terre. Et l'Esprit qui était sur Noé, l'Esprit du Christ, l'Esprit Saint, était suffisant déjà alors pour sauver une multitude. Mais malheureusement, il n'y en a que 8 qui sont entrés dans l'arche. Hein. 8 seulement eurent cette foi et entrèrent dans l'arche. Tous les autres restèrent malheureusement incrédules. Noé, le 8e, nous dit l'apôtre Pierre. Pourquoi le 8e ? Était-il le 8e au niveau de la génération après Adam ? Alors si on compte les générations, il y a 10 générations. D'Adam à Noé, il y a 10 générations. C'est quand même fou, hein, de se dire qu'en 10 générations, Dieu a déjà dû juger la terre à cause du péché. Alors les générations, les premières générations, vous savez, elles étaient plus longues que celles d'aujourd'hui, parce que l'homme avait une espérance de vie pratiquement de 1000 ans. Hein. Les plus âgés, ils dépassaient largement l'âge de 900 ans. Alors aujourd'hui, ça peut nous sembler être un peu fou, quoique, on voit bien, hein, avec les progrès de la science, la génétique, le transhumanisme, etc., on voit qu'on est en train de s'approcher, on va commencer à refranchir ce temps que Dieu a donné pour l'homme après Noé de 120 ans. On voit qu'on est en train d'entrer dans une époque nouvelle, et quelque part, ça, c'est aussi un signe précurseur du retour du Seigneur. Dieu va pas laisser l'homme vivre plus que 120 ans, parce que ces premières générations qui ont vécu pratiquement 1000 ans, en 10 générations, c'était la catastrophe complète. Dieu a dû juger la terre. Hein? Donc, non, c'est pas parce que Noé aurait été la 8e génération, vu qu'il était la 10e. Qu'est-ce que ça veut dire, alors, Noé le 8e? Et en fait, la réponse se trouve dans Genèse 7, verset 13. Alors, on reviendra après sur 1 Pierre. Je lis Genèse 7, verset 13, ce que voulait dire Noé le 8e. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Hein? Donc on voit, il y a 8 personnes qui sont entrées dans cette arche. Il y a Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Noé, la femme de Noé, ça fait 5 personnes, plus les 3 épouses des fils de Noé, 5 plus 3, 8. Noé était le 8e. Il est entré pour faire entrer tout le monde dans l'arche, mais il est resté au bord de la porte, et à la fin, on peut s'imaginer, peut-être il est même ressorti, puis il guettait, il espérait qu'il y allait des gens, parce qu'il avait prêché la repentance, il espérait que des gens allaient venir. Il savait que le jugement était là, que Dieu allait juger cette terre et il espérait encore jusqu'au dernier moment que des personnes viennent et entrent dans l'arche. Malheureusement, personne d'autre à part les membres de sa famille sont rentrés dans cette arche et Noé a dû à son tour rentrer dans l'arche et Dieu ferma la porte. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il était le huitième. Il était le tout dernier à rentrer dans l'arche et Dieu a fermé la porte et en fermant la porte, le jugement du Seigneur est venu sur cette terre. Noé était donc une préfiguration du Christ. C'est lui qui se tenait à la porte en faisant rentrer tous les membres de sa famille. Et de même, c'est Jésus qui est aujourd'hui la porte et qui nous permet de recevoir le ciel et la vie éternelle en chacun de nous. Jésus dit, je lis simplement Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Encore un deuxième texte dans Apocalypse 3, verset 7, la deuxième partie du verset 7. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Dieu a autorité en toutes choses. Il est la porte, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin qui a été donné à l'homme pour pouvoir venir auprès de Dieu. Jésus est celui qui nous accueille et celui qui un jour fermera aussi quelque part, peut-être on peut dire symboliquement, la porte de nos vies. Un jour, voilà, on devra s'en aller, la porte sur cette terre se fermera. Mais je pense qu'il n'y a aucun d'autre nous qui sera derrière cette porte et en train de dire « Ah, je veux revenir sur cette terre hein? !» Je pense qu'une fois que la porte de cette terre sera fermée, on sera trop content d'aller en direction du ciel à la rencontre de notre Seigneur, que son nom soit béni et loué. Oui, c'est là l'autorité de notre Maître, celui seul qui peut ouvrir et celui seul qui peut fermer. C'est lui qui jugera tout homme, mais il ne condamnera pas celui qui aura cru en lui. Et on peut penser que sur le plan humain, seulement 8 personnes de sauvées, c'est un sauvetage plutôt catastrophique. Hein? Si y a un bateau qui est par exemple en train de chavirer en mer et que c'est un grand paquebot et qu'il y a 2000 passagers dessus... Voilà, merci. J'ai une trop grosse Bible, là. Je vais prendre un plus petit modèle. Merci, hein. Dommage si vous n'entendez plus après. Donc, sur un sauvetage, s'il n'y a que 8 personnes sur 2000 passagers qui survivent, c'est pas un sauvetage extraordinaire. Hein. Bon, tant mieux pour ces 8 personnes. Mais là, combien étaient-ils? Combien sont-ils morts, emportés par les flots? Il y avait certainement déjà des millions d'habitants, je ne sais pas, on n'a pas de décompte. Mais c'était une perte énorme. Et se dire, sauver seulement 8 personnes, mais devant Dieu, quel est le prix d'une âme humaine? Et Dieu a aimé ces 8 personnes, et Dieu a suffisamment aimé ces 8 personnes pour les sauver des eaux. C'est bien la preuve du souci qu'a le Seigneur pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions goûter à cette vie éternelle et afin qu'une majorité de gens aussi sur cette terre puissent venir encore au Seigneur. On ne doit pas se décourager d'annoncer le salut autour de nous parce qu'il y a encore de nombreuses personnes qui vont entrer par cette porte, qui vont trouver la porte de salut que se trouve en Jésus-Christ. J'ai un t-shirt qui vient en fait d'Allemagne, qui est un t-shirt qu'on peut utiliser pour l'évangélisation. Vous avez déjà vu dans nos tunnels sur les autoroutes, par exemple, il s'est marqué « Exit ». Il y a une porte avec un dessin ou secours, hein, avec une porte c'est dessiné en vert avec un fond blanc. Alors le t-shirt est blanc et puis ça reprend ce logo de la porte verte et puis c'est marqué en anglais dessous « Last Exit Before Hell », hein, la dernière sortie avant l'enfer. Jésus est bel et bien cette porte-là. C'est un peu radical comme message, mais dans la réalité, c'est bien ça. Jésus est cette dernière porte, cette dernière solution qui est donnée à l'humanité. Et jusqu'au dernier jour, Dieu va prêcher la repentance au travers de chacun de ses serviteurs. Il a utilisé Noé et il nous utilise, nous, aujourd'hui. Dieu n'a pas utilisé des anges à cette époque-là. Il aurait pu, il a utilisé Noé. Et de cette même manière, le Seigneur encore, dans sa grâce, va nous utiliser, nous, que nous puissions prêcher la repentance, que nous puissions prêcher cette bonne nouvelle de ce Jésus qui sauve encore aujourd'hui par grâce, non pas par mérite, mais uniquement par grâce, uniquement en mettant notre foi en lui, en demandant à ce que le Seigneur vienne encore à notre rencontre. 1 Pierre 3, verset 20, je reviens sur la première lecture. 1 Pierre 3, verset 20. Je lis au milieu du verset 20. Un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ce verset, j'aime bien le citer dans le cadre de la préparation des baptêmes, quand on donne un cours comme ça, et rappeler à ceux qui suivent le cours que le baptême et l'eau du baptême n'a pas le pouvoir de purifier les souillures du corps. Parce que si l'eau avait ce pouvoir-là, je pense que chacun d'entre nous, on dirait, bah alors vite, vite, même avant de partir ce matin du culte, on va remettre le baptistère là, on va remplir l'eau et puis on va tous se plonger là-dedans et on va ressortir et plus aucune souillure et le péché n'aura plus aucun effet sur nous. Hein, je pense qu'on aimerait bien avoir un tel baptême. Ce sera un baptême magique, hop, voilà, plus aucun souci, plus aucune lutte contre notre chair, plus aucune lutte contre l'adversaire, la victoire, rien que la victoire, uniquement la victoire. Donc, est-ce une victoire si on n'a même plus besoin de se battre? Hein, on peut se poser la question. Ben non, l'eau n'a pas ce pouvoir. Mais si l'eau n'a pas ce pouvoir, le sang de Jésus a ce pouvoir. Amen. Le sang de Jésus a le pouvoir de nous purifier, a le pouvoir de nous rendre vainqueurs sur le péché, a le pouvoir de terrasser l'ennemi. Le sang de Jésus, le diable, il tremble devant, hein, et c'est rien de magique. Mais c'est une réalité spirituelle, parce que le diable et Satan lui-même sait très bien qu'il a été vaincu par ce sang, que ce sang l'a terrassé le jour de la mort de notre Seigneur. Ce sang est plus que victorieux. Il y a un pouvoir dans le sang de l'agneau, et ce pouvoir, aujourd'hui, est complet et total sur nos vies. Alors si l'eau ne peut pas nous purifier du baptême, le sang de Jésus a ce pouvoir sur chacun d'entre nous. L'eau, c'est le signe d'un engagement sincère de chacun d'entre nous, comme nous qui avons passé par les eaux du baptême. C'est un engagement, c'est une alliance qu'on a fait devant le Seigneur, d'une bonne conscience, parce que on n'est pas venu au baptême comme ça, juste en se disant, ah bah tiens, ce dimanche, c'est vrai, pourquoi pas un baptême, ça changerait de l'habitude du culte, on peut faire un truc un peu plus fun, hein, puis on fait un baptême, et puis c'est sympa, puis voilà. Non, si on est passé par les eaux du baptême, c'est qu'on avait une conviction intérieure. C'est qu'on a compris que le Seigneur, il nous appelait à sa suite et qu'on voulait lui appartenir. Donc, le sang de Jésus est véritablement purificateur et peut nous donner une vie de victoire sur le péché. Il est intéressant de voir que la signification du nom de Noé veut dire repos, tranquillité. Et c'est bien là ce que nous retrouvons en Jésus-Christ lorsque nous nous abandonnons en lui, nous retrouvons ce repos et cette tranquillité pour nos âmes. Et plus nous allons mourir à nous-mêmes, et plus nous connaîtrons Dieu. Et ainsi, plus aussi nous connaîtrons sa volonté pour nos vies. Car le baptême, c'est bien là le signe d'une mort à soi-même. Suivons donc l'exemple de Noé, montons dans l'arche, mourons à nous-mêmes, ce matin, une fois encore, capitulons devant notre Dieu. Oui, Seigneur Jésus, tout pour toi. Je m'abaisse, je fléchis le genou, je te laisse ma vie entre tes mains. Seigneur, conduis-moi jour après jour. Et ce matin, si telle est notre prière, là non plus il n'y a rien de magique, mais je crois que si telle est notre prière, si telle est l'attitude de notre cœur, et je pense que c'est l'attitude de chacun d'entre nous, alors l'Esprit-Saint sera au milieu de nous, Dieu remplira nos cœurs, sa douceur, sa bonté, son amour remplira notre coupe. Ce matin encore, Christ désire se refléter en chacun d'entre nous. Accueillons-le une fois encore. Laissons derrière nous les doutes, les errances, nos propres justifications et accueillons l'amour de Dieu pour nos vies. Ce matin, faisons encore alliance avec lui, car il est puissant pour accomplir en chacun d'entre nous ses promesses et ses projets. Si nous sommes intéressés par son œuvre, alors le Seigneur nous dit « Suis-moi et je te ferai voir la gloire du Père. Suis-moi et ma vie se manifestera encore en toi. Acceptes-tu mon offre ?» te dit le Seigneur. « Je suis là pour toi ce matin et je te consacre pour mon royaume. Acceptes-tu mon offre ? Ce n'est pas une offre au rabais, car j'ai payé le prix fort afin que tu puisses aujourd'hui même et une fois encore vivre en nouveauté de vie. » Et c'est bien là l'offre que le Seigneur nous fait ce matin à chacun d'entre nous. À l'image de ceux qui sont entrés dans l'Alliance, dans l'Arche de l'Alliance, dans ceux qui ont eu cette foi de croire que Dieu allait les sauver, ils ont fait le pas, ils sont entrés dans l'arche, personne ne les a forcés, ils ont obéi et Dieu a fermé la porte sur eux. Et de même, c'est à nous aussi de mourir à nous-mêmes. Dieu ne va pas nous forcer. C'est pas ton voisin qui peut mourir à ta place. Hein? Et c'est pas Dieu qui va mourir, Dieu est déjà mort une fois. Dieu ne va pas mourir une seconde fois, c'est à nous, et dans la liberté, de le faire, de nous placer devant le Seigneur, de lui laisser une fois encore tout entre ses mains. Oui, Christ en nous, l'espoir de la gloire. Et lorsque nous laissons notre vie entre les mains du Seigneur, alors c'est lui qui fera encore de belles choses en nous, comme nous pouvons le contempler dans la nature qui est si variée, et qui n'est qu'un reflet de la gloire du Père. Et nous pouvons trouver là encore un puissant encouragement de nous dire, oui, laissons nos vies entre les mains de Dieu. Dieu a fait les choses tellement d'une manière extraordinaire que nous contemplons la nature. Même les incroyants contemplent. Hein? Hier, je suis allé faire une petite marche, et puis j'ai croisé une dame du village, et puis elle a dit, puis souvent c'est quelqu'un qui court. Souvent, elle fait son jogging, puis là, elle marchait. Puis je lui ai dit, mais tu fais pas ton jogging? Puis elle m'a dit, oh non, là, j'ai beaucoup de stress et tout, je suis fatigué avec le travail, j'ai pas envie de courir, je veux juste marcher et contempler la nature. Hein? Est-ce que c'est pas beau? Tu vois, les dents du midi, elles ont la neige, et puis les montagnes sont claires. C'est vrai que les montagnes étaient vraiment super proches, quoi, visibles et tout. C'était un beau spectacle, il n'y avait pas un grand soleil, mais il y avait au moins une éclaircie, on n'avait pas la pluie qui nous tombait sur la tête. Même les incroyants, quand ils sont en contact de la nature, ben, il y a quelque chose quand même qui les apaise. Et ben, nous, on sait de qui vient cette nature. On sait que c'est qu'une petite partie du reflet de la gloire de Dieu. Alors, je crois que c'est aussi là un puissant encouragement pour laisser notre vie entre les mains du Seigneur, le laisser nous conduire. Et c'est ainsi qu'il nous donnera encore une fois sa paix au fond de nos cœurs. 1 Pierre 2, verset 9, je vous lis simplement ça. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, à chacun d'entre nous, que nous puissions être encouragés à vivre jour après jour une existence à la suite du Christ et à son service. Et nous ne savons pas exactement combien de temps a pris la construction de l'arche, mais la première mention de Noé dans la Bible, il nous est indiqué qu'il a l'âge de 500 ans. Puis, au moment où il entre dans la Bible, dans l'arche, la Bible nous indique qu'il avait 600 ans. Donc, il s'est passé 500 ans entre la première fois qu'on nous parle de Noé, mais il n'est pas encore en train de construire l'arche. Et puis, ensuite, 600 ans au moment où il entre dans l'arche. Donc, il y a 100 ans qui se sont écoulés là. On ne sait pas vraiment à quel moment il a commencé la construction de l'arche, mais ça a dû prendre du temps, parce que l'arche, voilà sa mesure, Dieu lui dit, voici comment tu la feras, l'arche aura 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Donc on peut s'imaginer le temps de construction pour un tel bateau a dû prendre à l'époque, parce que les outils étaient très rudimentaires. Il a fallu en premier abattre le nombre d'arbres suffisant, et rien que ça, c'était déjà un sacré boulot. Et puis ensuite, il a fallu débiter les poutres et les planches, et puis après encore former certaines poutres, parce que certaines poutres, pour faire un bateau, il faut les arrondir, donc il faut les mettre sur une forme, c'est tout un boulot. Même avant, il faut préparer la forme. Donc vous voyez les années, ça a pris des années et des années et des années de construire ce bateau. Et durant toutes ces années-là, Noé prêchait encore la repentance. Et puis après, il a fallu tout assembler, tout étanchéifier, préparer le voyage, préparer le bétail, les animaux et tout, la nourriture. Vous imaginez la tâche, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en 6 mois. En un mot, Noé n'a pas chômé. Mais tout ce travail a été nécessaire pour permettre à Noé de survivre. Et nous aussi, mourir à nous-mêmes, c'est un sacré boulot. Il faut défricher, il faut tailler, il faut décourber peut-être ce qui est courbé. Et tout ça, c'est le Seigneur qui le fait en chacun d'entre nous. Alléluia. Mais on doit mourir à nous-mêmes. Et puis, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Si on veut une vie de victoire sur le péché, je pense que le premier point, c'est là, c'est mourir à nous-mêmes. On n'aura pas de victoire sur le péché si on n'est pas mort à nous-mêmes. Si on n'est pas mort à nous-mêmes, il y aura toujours quelque chose qui va ressortir et on va être dans la difficulté et dans l'incapacité de mener une vie de victoire sur le péché. Voici encore, et c'est le dernier texte qu'on va prendre ensemble, ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains 6. Je vais lire à partir du premier verset. Romains 6. Que dirons-nous donc ? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, et par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de la justice. Car le péché n'aura pas point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, verset 7, nous rappelle cette importance de mourir à soi-même, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. C'est merveilleux, non? Celui qui est mort, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus, il est mort à notre place, mais c'est cette mort que le Seigneur a manifestée et il s'est laissé clouer et il a accepté ce chemin douloureux. C'est par cette mort que nous avons la vie. Mais tant qu'on ne meurt pas en nous-mêmes, on n'aura pas une victoire sur le péché. La sanctification, elle commence là. C'est cette mort à soi-même. C'est avec humilité reconnaître peut-être nos erreurs, nos errances, toutes ces fois où nous tournons en rond, où nous manquons de confiance dans le Seigneur, et revenir tout simplement à la croix, déposer nos vies, et car oui, celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Au moment où on laisse cette mort à nous-mêmes faire son effet, alors nous allons être vivants. Hein, on ne va pas rester des morts. Là, ils ont fêté Halloween, ils ont fêté les morts. Mais nous, on ne va pas fêter Halloween, nous, on fête les vivants. Jésus est vivant. Si on meurt à soi-même, ce n'est pas pour être un cadavre, là. Hein? Notre chair, oui, qu'elle puisse être un cadavre, qu'elle puisse rester sur cette croix. Et que le Seigneur nous rende vivants, qu'il mette sa vie en nous. Car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Hein? On ne peut pas se sauver par soi-même, ça c'est la loi. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous permet d'avoir encore ce matin une vie de victoire dans le Seigneur. Oui, nous sommes rendus vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et c'est bien là un point important, cette mort à nous-mêmes, et nous sommes rendus vivants en Jésus-Christ pour Dieu. Nous sommes appelés à le suivre, et c'est parce que nous le suivons que nous sommes rendus vivants. On ne doit pas rester simplement là à la croix et ne plus rien faire, attendre que le Seigneur revienne. Hein? Oh, je bouge plus, comme ça je vais plus pécher, je reste dans ma maison, et puis j'invite un traiteur, il va venir chaque jour me nourrir, comme ça je vais plus pécher, je vais plus dans le monde. Non, nous sommes rendus vivants au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes appelés à le suivre. Et je pense aussi que pour avoir une vie de victoire sur le péché, il faut le suivre. Si on ne le suit pas, c'est difficile. Si on ne le suit pas, on va avoir beaucoup d'errances, beaucoup de difficultés. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit « Car le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Si on est là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous allons être libres, nous allons être affranchis du péché, nous allons vivre encore une vie de victoire à la suite de notre Dieu. Oui, gloire et louange au Seigneur pour un si grand salut, pour une offre si merveilleuse, que nous puissions nous mettre à sa suite, lui dire encore toute notre reconnaissance et qu'il nous rende victorieux, qu'il nous affranchisse, qu'il nous libère, qu'il nous remplisse de sa joie, de sa paix et de son amour, qu'il nous remplisse de son Esprit Saint, afin que d'autres personnes puissent goûter à cette délivrance que nous trouvons auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Merci à Alexandre pour ce rappel de mourir à soi.